Bonjour, vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes avec Régis au micro. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis accompagné de Michael Paoli. Bonjour Michael.
Bonjour.
Qui se présentera lui-même dans quelques instants. Mais voilà, j'ai fait une erreur tragique dans ma précédente émission que j'avais consacrée à Brahms. Et je voulais vous faire écouter deux versions de la même danse hongroise, l'une en version orchestrale et l'autre en version piano à quatre mains. Donc on a bien écouté la version orchestrale, mais la version à quatre mains, eh ben c'était pas ça du tout, puisque je me suis trompé de plage dans le CD.
Ça arrive.
Ça arrive, hélas, voilà. Donc je répare immédiatement mon erreur. Et je vous fais à nouveau écouter les deux versions de cette danse hongroise. La première est interprétée par le London Symphony Orchestra, dirigé par Néméia Révi, et la seconde, en piano à quatre mains, donc, par Hector Moreno et Norberto Capelli. On écoute. Thank you. Et voilà donc une transition toute trouvée avec Brahms, car aujourd'hui, comme je vous le disais, je reçois avec grand plaisir Michael Paoli, clarinettiste et chef d'orchestre de l'Harmonie de Bourgoin-Jallieu, mais aussi depuis peu,
Michael. Mais aussi depuis peu, je dirige l'orchestre avant deuxième cycle au Conservatoire de Bourgoin.
D'accord.
Donc c'est tout récent, ça date du mois de septembre.
Bon.
J'ai l'honneur d'avoir reçu l'appel du directeur Florence Strosser qui me proposait le poste. Et nous avons effectué notre concert la semaine dernière, notre premier concert avec cet orchestre de jeunes, qui s'est bien passé. On a joué des œuvres de Johan de Mège, et c'était très bien, au Théâtre du Velin en plus.
Ah oui.
Oui.
Ah
oui, voilà, le cadre était pas mal quand même.
Avec un grand public, j'espère.
Un grand public, la salle était pratiquement pleine, donc
super.
C'était très très bien.
Ouais, vraiment.
Et au-delà de ça, je donne des cours de clarinette, évidemment. Et je joue dans un ensemble de clarinettes cubaines qui s'appelle Candela Negra, avec notamment le professeur de clarinette du Conservatoire de Lyon, qui fait partie de l'ensemble.
D'accord.
Et le groupe est tout récent, puisqu'il a à peine un an, et on commence déjà à avoir quelques dates. On a un gros projet à Bourgoin, on a joué à Paris au mois d'octobre. Donc voilà, ça prend son envol.
D'accord. Donc clarinettiste émérite ?
Émérite, je ne sais pas, clarinettiste, oui.
Oui, non, parce que je me souviens quand même que dans une émission de l'année dernière,
oui.
Nous vous avions déjà reçu et vous aviez même joué un morceau en direct.
C'est vrai, à la clarinette basse.
Voilà, à la clarinette basse. Exactement.
Oui, je commence à connaître les lieux puisque c'est la quatrième fois que je viens, je crois.
D'accord.
Donc,
Et ça ne sera pas la dernière.
J'espère.
Et ça ne sera pas la dernière parce que je compte bien exploiter vos talents de chef d'orchestre et voilà. Voilà, alors je disais transition toute trouvée avec Brahms. Parce qu'effectivement, Brahms a composé un magnifique quintet, et pas que d'ailleurs, puisqu'il a écrit aussi des sonates pour clarinette.
Deux sonates pour clarinette, oui.
Et ce quintet de Brahms, j'en ai parlé dans ma précédente émission, justement sur Johannes Brahms. Et je vous avais fait écouter le premier mouvement de ce quintet. Donc aujourd'hui, je vous propose d'écouter le deuxième. Un petit commentaire peut-être sur ce deuxième mouvement, Michael.
C'est mon préféré.
C'est
pour ça que quand vous m'avez demandé de diffuser cette œuvre, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour demander le deuxième mouvement, car au milieu du deuxième mouvement, il y a un passage de clarinette absolument fabuleux que tous les clarinettistes connaissent, que tous les clarinettistes veulent jouer.
Oui.
J'ai eu la chance de le jouer une fois en quintette et
d'accord.
C'est un moment assez excitant.
D'accord. Et c'est exceptionnel parce que c'est techniquement difficile ou
c'est,
au contraire, c'est parce que la musique
c'est
est tellement belle.
Musicalement difficile.
C'est musicalement difficile.
Techniquement, on s'en sort puisque c'est en clarinette en la.
Ouais.
Donc c'est quand même quelque chose à travailler, vraiment.
Ouais.
Mais musicalement, c'est assez difficile, au point de vue justesse, au point de vue tempo, au point de vue couleur de la clarinette. Et vous allez écouter, de toute façon, l'œuvre est absolument magnifique.
D'accord. Donc on écoute effectivement ce deuxième mouvement, Adagio più lento, oh là là, je bégaye en plus, Adagio più lento, interprété par le Brandis Quartet, et c'est Karl Leister à la clarinette, Karl Leister qui a été le clarinettiste en chef de la Philharmonie de Berlin.
C'est ce exactement ça.
Voilà. On écoute.
Thank you.
Vous êtes bien sur Couleur FM 97.1 et nous sommes toujours dans l'émission Au fil des notes. Et nous poursuivons avec Michael Paoli et son instrument préféré, la clarinette.
Et de loin.
Et de loin, puisqu'il la pratique en musicien très averti, je crois savoir. Voilà, donc un mouvement lent de ce quintet, moi je le trouve assez beau. Et
très beau.
Et Michael nous disait à l'instant que c'était un de ses morceaux préférés de la clarinette. Voilà, alors on va faire un petit peu d'histoire quand même, si vous le voulez bien, Michael. Voilà, la clarinette, ça commence quand et comment?
Ça commence quand et comment? Vaste question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, il y a le chalumeau d'abord. Le chalumeau qui est l'ancêtre de la clarinette. Et à la toute fin du XVIIe siècle, dans les années 1690, c'est Jean-Christophe Denner qui va apporter la révolution.
Un Français ?
Un Français. La ouais. révolution sur la clarinette, puisqu'il crée la clé de douzième. Alors, ça ne parle pas aux gens, mais c'est cette fameuse clé que d'autres appelleraient clé d'octave, qui permet de passer dans le registre aigu.
Supérieur.
Du chalumeau. Et sauf que, contrairement aux autres instruments, la clarinette ne fait pas d'octave, elle quintoie, c'est-à-dire une quinte au-dessus,
oui.
mais avec en plus le registre d'octave, ce qui nous fait une douzième au-dessus. C'est-à-dire,
d'accord.
quand on fait un do à la clarinette et qu'on appuie sur cette clé, ça fait un sol 12 notes au-dessus.
D'accord.
Donc c'est un petit chiffrage mental qu'il faut se faire
oui,
au
d'accord.
début quand on est sur l'apprentissage. Après, il y a eu plusieurs évolutions de la clarinette. On passe à la clarinette à 5 clés, 9 clés, 13 clés, pour arriver maintenant avec le système BEM que nous connaissons actuellement à la clarinette à 17 clés. Voilà,
d'accord.
c'est la clarinette qu'on joue actuellement, qui nous facilite les doigtés, car à l'époque, les doigtés étaient un petit peu délicats. Ça s'apparente un petit peu à la flûte à bec.
Oui.
Il fallait faire niveau justesse des demi-trous, avoir des doigtés un petit peu factices, un petit peu difficiles, pour pouvoir jouer les œuvres que les compositeurs écrivaient. Et de temps en temps, je peux vous dire que ça devait être quelque chose pour jouer ne serait-ce que le concerto de Mozart sur clarinette d'époque.
Oui.
C'est pas facile.
D'accord.
Pas facile du tout. Donc maintenant, grâce à l'évolution, grâce à tous ces systèmes, grâce aux performances aussi de factures des fabricants de clarinettes,
oui.
voilà, qui créent maintenant des clarinettes... qui sonnent vraiment dans tous les registres,
ouais.
ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque, qui sont plus ou moins justes, car c'est un instrument qui est non tempéré, donc la justesse est toujours relative. On essaie toujours de corriger un petit
d'accord.
peu la justesse quand on joue avec une flûte ou un violon ou des basses. Voilà, c'est assez difficile,
ouais.
Question justesse.
D'accord. Bon. Donc un rapide aperçu. Donc, sur cet instrument, et puis on est aujourd'hui au 21e siècle, et donc la clarinette est maintenant un instrument qu'on peut considérer comme fini ou encore en évolution?
Il y a encore des évolutions, notamment, je ne vais pas citer de marque, parce que je ne sais pas si on a le droit, mais des fabricants de clarinettes maintenant, ils sortent encore la... Bon, je vais citer la marque, parce que sinon je vais être... Buffet Crampon, notamment,
oui.
Selmer aussi, voilà, j'en cite deux,
oui.
qui créent encore des évolutions. Alors l'évolution se fait surtout au niveau ergonomique, c'est-à-dire on essaie de créer des clés. Et là, le musicien a le moins possible de mouvements à faire.
D'accord.
Voilà.
Que les
clés tombent bien sous les doigts. Au niveau justesse, beaucoup d'évolutions aussi. Au niveau timbre, voilà, ce sont les principales
d'accord.
évolutions. Après, on rajoute des clés de correction, encore maintenant. C'est assez récent, des clés de correction pour la justesse, notamment dans le grave.
D'accord.
Et aussi des évolutions sur le matériau en lui-même, car la clarinette, tout le monde sait que c'est en ébène.
Oui.
Enfin, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais je le dis, en ébène. Et maintenant, on fabrique des clarinettes à partir de matières composites. C'est de la poudre d'ébène qui est compressée.
D'accord.
Et en niveau intensité de matière, il y a plus d'ébène dans une clarinette composite que dans une clarinette en bois.
D'accord.
Car il est compressé.
Oui.
Il est vraiment compressé.
Donc c'est une structure moléculaire, on peut dire.
C'est
plus...
ça. Car le gros problème des clarinettes et des instruments comme le hautbois aussi, c'est
oui.
qu'ils peuvent fendre. Le bois peut
d'accord.
fendre et du coup l'instrument est à changer.
D'accord.
Donc on essaye les fabricants essaient de changer ça.
Donc si je comprends bien, la clarinette, c'est dans la famille des bois?
Des bois.
Au sein de l'orchestre, c'est dans la famille des bois.
C'est ça.
D'accord.
Tout comme la flûte, le hautbois, le basson.
D'accord. Bon. Alors, quand on parle de clarinette, bien évidemment qu'on connaît des morceaux de musique très célèbres, hein, et évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Mozart, bien évidemment, avec son fameux concerto pour clarinette. Et tout le monde, évidemment, ou presque tout le monde, se souvient de ce film « Out of Africa », où Robert Redford et Meryl Streep filent le parfait amour en Afrique. Et à un moment donné, dans ce film, il y a un moment qui est illustré par ce fameux concerto pour clarinette de Mozart, le mouvement lent. Le fameux adagio de ce concerto, et on va bien sûr l'écouter parce que c'est vraiment un très très beau moment de clarinette, je crois, hein, Michael.
Totalement, un très grand moment. Ouais. C'est, on appelle ça entre musiciens classiques un tube, puisque Mozart a écrit qu'un seul concerto pour clarinette, et encore c'est grâce à son clarinettiste attitré Anton Stadler qui le pressait de lui écrire un concerto. Il avait déjà écrit le quintet pour clarinette, et Anton Stadler voulait absolument un concerto, et du coup Mozart a utilisé le même instrument que pour le quintet, c'est-à-dire la clarinette en la de Bassett, que Stadler avait fait construire exclusivement pour ce morceau, et Mozart l'a utilisé donc pour écrire le concerto, le fameux adagio, et voilà, tout le monde, on est pressé quand on apprend la clarinette de le jouer.
Je trouve assez extraordinaire qu'un musicien puisse dire, eh ben, je vais faire un instrument pour cette musique-là. Moi, je trouve ça absolument magnifique.
Alors, à l'époque, sur les clarinettes anciennes, on ne pouvait pas vraiment faire toutes les notes où c'était vraiment très, très, très difficile. Il fallait avoir une dextérité infernale pour pouvoir jouer ses œuvres. Donc, souvent, il faisait construire un instrument dans la tonalité. Voilà, pour justement éviter certains doigtés.
D'accord.
Donc c'était un petit peu la mode à l'époque, c'est le cas là pour le concerto de clarinette.
D'accord. Donc on écoute effectivement ce deuxième mouvement du concerto pour clarinette de Mozart. C'est l'Académie de Saint-Martin in the Fields, dirigée bien évidemment par Sir Neville Mariner, et c'est toujours Carl Leicester à la clarinette que nous avons entendu dans l'œuvre précédente. Et voilà ce superbe adagio du concerto pour clarinette de Mozart. Moi, je peux dire que pour moi, c'est vraiment un moment musical exceptionnel. Voilà.
Pour moi aussi. Ouais. Pour moi aussi, ça vient.
Donc, nous sommes maintenant dans la musique dite classique, hein, entre guillemets, avec un instrument reconnu comme vraiment faisant partie intégrante de l'orchestre. Et comme chacun sait, cette musique va évoluer, bien évidemment, vers de nouvelles tonalités, vers de nouvelles façons de jouer la musique. Après la musique classique, ou de façon concomitante, on va trouver le jazz, bien sûr, et puis beaucoup d'autres formes musicales. Et on va arriver à quelque chose de tout à fait à part, je dirais, dans le genre musical de la clarinette, c'est la musique klezmer. Mais tout ça avec des instruments peut-être un peu différents. Donc je crois savoir que la famille des clarinettes est quand même assez vaste.
Elle est très vaste, elle est très vaste. Pour synthétiser un petit peu, il existe une douzaine de modèles différents, de tonalités différentes.
Oui.
Pourquoi 12 modèles ? Ça vient encore de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on faisait construire des instruments à l'époque pour jouer dans une certaine tonalité, et ces clarinettes ont pérennisé. Et on les a gardés, donc maintenant on peut écrire pour une petite clarinette mi bémol qui joue très aiguë, ou pour une clarinette basse, voire contrebasse.
D'accord.
Il en existe assez peu, mais oui, elles existent, elles ont le bonheur d'exister.
D'accord. Donc, je parlais de formes musicales très particulières, et donc le klezmer. Alors, Michael, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du klezmer ?
Ouh là là, beaucoup de choses. Alors, on parlait tout à l'heure de musique dite classique. Et je crois savoir, Régis, que vous êtes comme moi, j'aime pas trop ce terme.
Moi non plus.
Car elle catalogue un petit peu trop une
certaine forme de musique. C'est bien pour ça que je dis chaque fois « dite classique ».
Voilà. Je préfère dire musique, même si c'est pas non plus un terme très très bien utilisé, musique savante occidentale, en inverse de la musique non savante et non occidentale,
ouais,
dont fait partie le klezmer. Alors, je m'explique, le klezmer, c'est une musique traditionnelle, des pays de l'Est, notamment israélienne, une musique très festive. Et la transmission de cette musique, d'où le terme non-savant, c'est-à-dire que c'est une transmission orale. Ça vient de tradition. On apprend.
Il n'y a pas de musique écrite.
Voilà. On apprend,
ou très peu, en tout cas.
On apprend par l'oralité, par l'écoute.
Oui.
Et elle se transmet de génération en génération par ce biais-là.
Mm-hmm.
Il n'y a pas effectivement de partition. On ne peut pas parler de solfège comme on parle ici, dans les conservatoires,
oui,
ou dans les écoles de musique. Là-bas, la transmission est orale. Et c'est très important de garder ça, de garder ces musiques traditionnelles, dont s'inspirent aussi les compositeurs de musique dite classique.
Oui.
Ils s'inspirent beaucoup de ces musiques traditionnelles, car elles sont très riches dans la couleur, dans la façon de jouer.
Bien sûr.
Un clarinettiste, vous allez entendre, qui joue de la musique klezmer, à une embouchure différente de nous, un son différent, un matériel différent, car ils n'ont pas le dernier modèle forcément de chez Buffet Crampon, de chez Selmer.
Ouais.
Et elle garde ce timbre-là. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une musique très festive. Et tout bon clarinette qui se respecte vient un jour ou l'autre à la musique klezmer. Il s'essaye justement à faire des longs glissés, des plein d'effets. Alors, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais voilà, on se dit, wow, Georgia Feynman, par exemple, qui est un grand clarinettiste klezmer, on en vient à l'écouter et on se dit, on veut essayer de faire pareil, quoi.
Oui, oui,
on est dans notre salle, notre salle, on travaille, on dit, hop, on met quelques glissés, on essaie de faire comme lui. On n'y arrive pas, évidemment. Et ça se travaille, et beaucoup de compositeurs, dont Copland, qu'on écoutera tout à l'heure.
Ouais.
Hein, je dévoile un petit peu le fil de l'émission.
Programme.
Donc Copland qui va l'utiliser, d'ailleurs, qui va utiliser un glissando. Donc le glissando, pour expliquer, ce ne sont pas des notes qu'on défile, mais c'est un son qu'on étire.
Voilà. D'accord.
Vous l'entendrez tout à
d'accord
l'heure.
Donc on écoute du klezmer.
On va écouter du klezmer,
ouais,
notamment Margot Leveret,
oui,
et sur un morceau qui s'appelle Medley Bulgare. Donc la clarinette klezmer se situe vraiment sur, on va dire l'Israël, la musique israélienne, mais dans un terme plus large, musique des pays de l'Est, donc Bulgarie, Macédoine, Roumanie.
D'accord. On écoute.
On écoute.
Vous êtes bien sur Couleur FM 97.1, vous êtes toujours dans l'émission Au fil des notes et nous sommes toujours en compagnie de Michael Paoli et de sa clarinette.
Pas de la mienne, mais celle des autres. Mais oui, au sujet de la clarinette, et vous venez d'entendre quelque chose d'assez incroyable. Je parlais tout à l'heure des glissés, vous avez pu en écouter beaucoup là.
Oui, effectivement. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est justement de mettre l'un derrière l'autre notre ami Mozart et cette musique klezmer avec le même instrument, on arrive à deux musiques totalement différentes. Alors, peut-être pas tout à fait le même instrument, hein, puisqu'on vient pas de parler de la famille des clarinettes, mais voilà, on est dans le, quand même à la base avec le même instrument. Quoi.
C'est ça, le même instrument, et je suis persuadé que Mozart aurait adoré et se serait beaucoup inspiré de ces musiques.
Oui. Moi, je me réfère toujours à ce que disait un jour notre ami Frédéric Lodéon. Il disait dans une de ses émissions, il y a longtemps de ça, si Jean-Sébastien Bach avait connu les pianos Steinway, il aurait sauté dessus.
C'est probable. Bref, si Mozart avait connu la clarinette à 17 clés, il aurait fait des ravages aussi.
Exactement. Et nous parlions il y a de ça un instant du jazz. Et bien sûr que dans le jazz, la clarinette a une place
très importante.
Extrêmement importante. Hein. On connaît le nom de Sidney Bechet. Qui ne connaît pas Sidney Bechet, hein. Pour moi, c'est des moments aussi absolument incroyables. Sidney Bechet.
Petite fleur de Sidney Bechet.
Petite fleur, les oignons. Mm. Et puis Sidney Bechet en concert, par exemple dans Jazz à Antibes, que j'ai eu l'occasion un jour d'écouter en live, si j'ose dire. Wow. C'est assez extraordinaire. Mais pas que Sidney Bechet, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Hein. On peut parler, bien sûr, de Benny Goodman.
Oui, on peut parler de Benny Goodman, qui est un grand clarinettiste jazz, tellement grand. Alors il faut situer, on est au début du XXe siècle. La diffusion de la musique commence à se répandre, puisque par le biais d'enregistrements,
tout ça commence. Les premiers disques.
Hein, voilà, apparaissent les premiers disques. Les compositeurs de musique dite classique entendent ces musiques-là, musique de Nouvelle-Orléans notamment.
Bien sûr.
Et s'inspire beaucoup, et ça va être le cas notamment d'Aaron Copland, qui est très féru de nouveaux sons.
C'est quelle époque,
Aaron Copland, c'est le début du 20e, voilà. Le concerto de Copland se situe de mémoire aux alentours de 1950, peut-être un petit peu avant.
D'accord.
Donc voilà, on est en plein dedans, mm-hmm. en plein dedans, dans l'émergence du jazz,
oui.
dans l'émergence de sons différents, de musiques différentes, de musiques improvisées, et Copland va s'en inspirer pour écrire un concerto pour Benny Goodman. Il écrit pour lui. C'est le premier enregistrement que je n'ai pas pu retrouver, hélas, est écrit et joué par Benny Goodman. Et dans ce concerto, voilà, il y a vraiment trois phases différentes. La première phase, une musique très lente, harmoniquement absolument merveilleuse. Une cadence au milieu où on commence à sentir l'inspiration de jazz arriver.
Ouais.
Alors une cadence, c'est un moment d'improvisation dans la musique classique.
Mm-hmm.
Et là, on a des petits parfums de jazzy.
D'accord.
Et la troisième partie qui est carrément, pour moi, carrément jazz, même si l'écriture
D'accord.
est classique.
D'accord.
Donc on va l'entendre par le soliste de l'Orchestre de Paris, Philippe Cuper, très très grand clarinettiste. Et il va nous jouer ce concerto de Copland merveilleusement bien.
On écoute. Thank you. Eh bien, Michael, moi je viens de découvrir que Copland, c'est au moins l'égal de Mozart, hein, franchement.
Je trouve aussi. Et en plus, j'ai un attachement très particulier à ce concerto, car c'est le concerto qui était tombé, c'est l'œuvre qui était tombée en imposé pour mon prix de conservatoire.
Donc, ah d'accord.
J'ai un attachement très particulier.
On peut comprendre.
Et comme j'avais plutôt bien réussi puisque j'avais eu mon prix, j'ai gardé toujours un lien très intime avec ce concerto que je trouve. Voilà, c'est dans mon top 3 des des œuvres pour clarinette.
Oui. C'est un des disques que tu emmènerais si on devait te laisser sur une île déserte pendant 6 mois.
Il serait
dans la liste.
Voilà, il serait en premier dans le sac.
D'accord. Alors, avec Copland, on vient d'entendre quelque chose de tout à fait magnifique du début du XXe siècle, donc 1950, à peu près 1948-1950. On va faire quand même un retour en arrière parce qu'il y a toute la période 18e-19e. On a eu Mozart, bien sûr, hein, on a eu Brahms aussi fin 19e. Mais il y a un compositeur qui est à cheval sur le 18e et le 19e, c'est Louis Spohr.
Exactement. Qui a été assez prolifique pour la clarinette, puisqu'il a écrit 4 concertos, dont le dernier qui a été joué pour la première fois à titre posthume, puisque Louis Spohr était déjà mort. Et pourquoi Spohr ? Parce que ce sont des œuvres que tout clarinettiste va affronter, et je pèse mes mots,
oui.
Affronter un jour ou l'autre.
C'est si difficile que ça ?
C'est très très difficile. Voilà.
Très difficile.
Dans le classique, entre guillemets, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile et véloce. Il faut avoir une dextérité aussi bien digitale qu'avec la langue pour le détacher,
oui.
qui est assez énorme. Et notamment, donc je voulais vraiment montrer ces pièces-là, ces œuvres-là, car elles ont été enregistrées par celui qu'on surnomme entre nous l'extraterrestre de la clarinette, Paul Meyer, qui est un très très grand clarinettiste, et qui les a enregistrées tout récemment, puisque je pense que ça date de 2011, où on s'était réunis entre clarinettistes lyonnais. Paul Meyer était venu de faire une masterclass, on l'avait rencontré, il nous avait offert d'ailleurs ce CD, il nous l'avait offert gracieusement, on le remercie encore. Et ce qu'il faut dire, c'est que sur cet enregistrement, Paul Meyer, donc évidemment, joue de la clarinette sur ses concertos de Spohr, mais aussi dirige.
D'accord.
C'est l'orchestre de Lausanne.
Il dirige tout en jouant ?
Il dirige tout en jouant. Et
d'accord.
Ce qu'il faut bien se dire, c'est que ces pièces, il y a 4 concertos, hein, c'est très très long, il les a enregistrés en une seule prise.
Ouf.
Voilà. Il n'y a pas eu de montage, il n'y a rien eu. Presque pas de retouches.
Donc il est arrivé dans le studio, il a dit je joue, et il a joué, et il a joué les 4 concertos enchaînés les uns derrière les autres.
C'est exactement ça, il les a enchaînés du début à la fin, il n'y a pas eu d'arrêt, il n'y a pas eu une note à côté. Bon, en même temps, il s'appelle Paul Meyer, hein, voilà. C'est...
Oui.
Si ça avait été Michael Paoli, on l'aurait refait 592 fois à peu près. Mais voilà, oui, il les a enchaînés d'une seule fois, et c'est assez magique, vraiment.
Alors, on va écouter Louis Spohr.
Sur le troisième mouvement du deuxième concerto, qui est un de mes préférés.
Oui.
Et vous allez voir, toute la dextérité de Paul Meyer, son détaché ultra véloce. Voilà, vous allez pouvoir écouter ça.
Alors, je fais un aveu avant de commencer. C'est que je n'ai jamais écouté Louis Spohr dans ses œuvres pour clarinette.
Mais je suis là pour ça, Régis.
Je découvre.
Pour vous faire découvrir.
Merci, Michael.
De rien. Thank you.
Effectivement, c'est très technique, hein, j'ai l'impression.
Beaucoup.
J'ai l'impression. Je ne suis pas connaisseur en clarinette et je ne suis pas connaisseur du jeu de la clarinette, mais effectivement. Alors, on a fait un rapide aperçu de ce magnifique instrument. On n'en a pas fait le tour, bien sûr, hein, parce qu'il faudrait des heures et des heures pour en parler. Bon, je crois que dans l'ordre chronologique de l'apparition de la clarinette, on pourrait parler de Vivaldi, on pourrait parler de Handel, on pourrait parler de Mendelssohn, on pourrait parler de Camille Saint-Saëns. Et puis plus proche de nous, on pourrait parler aussi de Gershwin. Et Gershwin, tout le monde connaît le fameux début de Rhapsody in Blue avec la clarinette en solo qui fait un magnifique glissando d'une note grave jusqu'à une note aiguë.
D'un sol grave jusqu'à un do. Même
d'accord. Qui doit être aussi assez redoutable pour le clarinettiste, pour faire quelque chose de propre, hein, comme
on dit
en musique. Hein. Et puis, il y a également, alors tout le monde connaît évidemment Pierre et le Loup de Prokofiev, hein, où Prokofiev incarne le chat avec une clarinette. Hein. Voilà, on pourrait citer comme ça bon nombre d'œuvres. Hein. Mais il y a un musicien que je voudrais vraiment citer, un musicien d'aujourd'hui, qui est Louis Sclavis.
Un musicien local.
Local, né à Lyon, dans le 8e arrondissement, si j'ai bonne mémoire. Je crois que c'est le quartier de Montplaisir ou de Montchat, je ne sais plus. Enfin bref. Et il se trouve que je viens juste de l'écouter à l'auditorium Maurice Ravel à Lyon. C'était lundi soir, lundi 14 décembre au soir. Il était accompagné en première partie de Michel Portal, grand parmi les grands de la clarinette, hein, bien sûr. Je crois que, Michael, vous ne diriez pas le contraire.
Ah non, 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 je ne veux pas contredire.
Et puis, en deuxième partie, donc, de son ensemble, Louis Sclavis Silk Quartet, et on a vécu un moment absolument phénoménal, vraiment. Le concert était annoncé pour une durée de 1h30, il a commencé à 8h, on est sorti à 10h30 le soir.
Le sourire aux lèvres.
Et le sourire, oui, non, et, voilà. Et des étoiles plein les yeux, hein, en plus, hein. Et puis les oreilles... vraiment rempli d'une très très belle musique, vraiment, vraiment. Voilà. Alors, est-ce qu'on a le temps d'écouter peut-être un petit morceau de Louis Sclavis ? Oui ? Eh bien, voilà. On va écouter un petit morceau. Voilà, un rapide aperçu de la musique de Louis Sclavis que je recommande vraiment à tout le monde d'aller écouter. Voilà. Alors, on termine avec cette magnifique émission grâce à Michael Paoli.
Grâce, je ne sais pas, surtout grâce à vous, Régis. Merci de m'avoir invité, en tout cas.
Merci à vous, Michael, d'avoir répondu à notre invitation.
Avec grand plaisir.
On va se souhaiter une très belle année 2016 avec une... j'espère plein de bonnes musiques, plein de belles et bonnes musiques tout au long de cette belle année 2016, qu'on espère en tout cas très belle, peut-être un peu moins tragique que 2015.
On espère.
Hein, on espère. Je remercie bien sûr Sandrine à la technique, qui est assistée aujourd'hui de Guillaume. Merci à tous. Et puis à très bientôt.